à tous et à toutes. Dans cette nouvelle matinale de FM+, un nouvel invité qui n'est pas un inconnu pour FM+. Nécessité fait loi. De nombreux lieux d'apprentissage, d'enseignement se sont organisés pour continuer la transmission. De nombreuses institutions ont mis en ligne des ressources, comme par exemple les ressources d'apprentissage de la Commission européenne, mais aussi l'enseignement à distance, pour lequel ont été repensés les fondamentaux pédagogiques, l'humain d'abord, ensuite le programme, la connexion avec les élèves, la pédagogie active notamment. Alors j'accueille ce matin un professeur de dessin qui a pensé et repensé son enseignement à distance. Bonjour Jean Bessa.
Bonjour Guylaine.
Jean Bessat ou Jean Bessa?
Bessa.
Bessa, oui. je ne prononce pas le T.
Il y a un T à la fin, mais on ne le prononce pas.
On ne le prononce pas.
Il y a un village en Auvergne qui porte mon nom. J'ai eu l'impression d'en passer chez moi.
Alors Jean Bessa, vous enseignez le dessin à l'école occitane d'aquarelle à Montpellier, qui est basée rue Blaise Pascal à Montpellier. Donc, une école créée en 2018 par Nicole Boulet. Des cours, des stages, des ateliers, mais ce sont des mots qui sont aujourd'hui prohibés. L'école est vide ?
Oui, l'école est vide, effectivement, mais elle continue à fonctionner, enfin tout au moins en ce qui concerne le dessin, parce que j'ai senti la nécessité de le faire à distance, avec certaines difficultés, il faut le reconnaître. Quand les élèves, pendant le cours, font des dessins et qu'ils me les montrent à la caméra, à la webcam, ce n'est pas toujours des conditions optimales. Mais bon, je vous expliquerai comment j'ai goupillé tout ça. C'est-à-dire que le cours dure une heure et ensuite, donc il y a une partie didactique où je leur explique avec de soutien de diapositives ou de petites vidéos que je fais. Je leur explique comment faire, les quelques règles à respecter. Il n'y a pas beaucoup de règles. Mais... Et ensuite, ils font des dessins qu'ils m'envoient par email en pièce jointe. Mmh. Et là, je les corrige et je leur retourne ces dessins. Et au cours d'après, on débrief et les élèves voient l'ensemble des dessins qui ont été faits par les autres. Et ça sert du point de vue didactique pour l'évolution.
Voilà. Alors finalement, ce que j'entends, c'est qu'il y a trois étapes que normalement vous regroupiez en une.
Voilà, exactement.
En un cours, vous faisiez les trois étapes que vous êtes obligé là de décomposer. Oui. Oui. Alors, on va commencer par la première, la partie didactique. Oui. Alors, il y a peu de cours didactiques. Et vous, dans votre petite vidéo que j'ai écoutée d'une minute 37 que vous mettez sur le site, vous dites finalement ce qui compte, c'est faire. Appliquer des règles que j'entends qui sont peu nombreuses.
C'est-à-dire que les règles, c'est plus des garde-fous que des règles. Hein. Quand on parle de proportions, de composition d'un dessin, d'un tableau, ce sont plus des garde-fous que des règles. On peut très bien les transgresser à partir du moment où les éléments qu'on met dans son dessin respectent une certaine logique si on veut faire quelque chose de figuratif. Voilà, c'est la base. Les élèves que j'ai pour l'instant, qui sont essentiellement des élèves qui viennent du cours d'aquarelle et qui ont senti le besoin de maîtriser le dessin parce qu'elles rencontraient des problèmes dans leurs aquarelles, c'est donc qu'il y a des problèmes de dessin. Le but auquel elles veulent arriver, c'est de dessiner des personnages. Mais les personnages, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que dessiner un personnage, c'est bien, mais il faut le mettre en place. Le mettre en place par rapport à son environnement. Et là, alors, il y a un truc absolument indispensable, c'est la connaissance de la perspective. Et c'est ce qui leur manque à toutes.
Et pourtant, je me dis, comment est-ce qu'on peut imaginer faire de la peinture, enfin de l'aquarelle en l'occurrence, sans avoir ces connaissances-là? Moi, ça me semble difficile à envisager. Pourtant, c'est ce qui se passe.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, la plupart de celles qui rencontrent des difficultés qu'elles perçoivent, elles font des aquarelles où la perspective entre peu. Faire l'aquarelle d'une vague qui brise sur la plage, faire une aquarelle d'une forêt, d'un paysage, s'il y a une maison, ça devient plus difficile. Parce qu'il va y avoir une échelle humaine et il va y avoir obligatoirement de la perspective qui va intervenir.
Ouais.
Il y a quelques règles de base. Alors, ces cours m'ont amené à complètement repenser l'enseignement de la perspective.
Les cours, les cours à distance, donc ?
Oui.
Ah oui.
Oui.
C'est-à-dire ?
Non seulement les cours à distance, mais les cours de perspective eux-mêmes.
Ah oui.
Eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on apprend la perspective d'une façon traditionnelle, on commence par faire de la géométrie descriptive. Des plans, des élévations, des vues de profil, etc. C'est fastidieux, c'est difficile et ce n'est pas nécessaire. En fait, l'apprentissage de la perspective et le respect de la perspective, c'est basé avant tout sur l'œil. On voit. Et j'en ai fait mon slogan, ça. Voir, regarder, observer et comprendre. Voir, tout le monde le fait. Regarder, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas suffisant. Observer, c'est mesurer, c'est voir des rapports entre des grandeurs. Là, c'est déjà mieux. Mais il faut comprendre comment tout ça est agencé. Car la géométrie, elle est partout dans la nature autour de nous. Les fleurs, les étoiles, tout ça, c'est de la géométrie.
Comprendre et ensuite restituer.
Oui, restituer.
Restituer, c'est encore une autre étape, j'ai l'impression.
Oui.
Parce qu'on peut comprendre et peut-être pas être en mesure de reproduire ce qu'on a compris.
C'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Alors, il y a des exemples célèbres. Il y a un exemple que j'ai cité à mes élèves, c'est Dürer, qui était un graveur extraordinaire, dessinateur extraordinaire. Eh bien, il avait des problèmes de perspective. Il est allé en Italie étudier la perspective avec l'inventeur, parce que la perspective linéaire que nous connaissons a été inventée. Et c'est une invention de l'esprit. C'est une abstraction, la perspective.
Ce n'est pas une sorte de copier-coller proportionnel, disons, à une réalité qui nous entoure.
D'une certaine façon, si, bien sûr.
Mais
copier-coller, c'est un copier-coller en trois dimensions.
Et oui, c'est ça.
Faire des copier-coller en trois dimensions et évaluer des distances entre des objets dans l'espace, ça n'est pas évident. Quand on voit la photo d'un personnage avec en arrière-plan une maison, par exemple, on va s'apercevoir que le personnage qui est au premier plan, il a la tête qui ne passerait pas dans la fenêtre de la maison qui est derrière. Mais ça, on ne le voit pas. Enfin, on ne l'observe pas. Notre cerveau corrige. Il sait très bien quelle est la dimension relative entre la tête d'une personne et la dimension d'une fenêtre. Donc, il nous résout le problème.
Il la fait rentrer, quoi qu'il arrive, il se dit, il faut qu'elle rentre.
Mais quand il faut la restituer sous la forme de dessin, c'est plus la même chose. Parce que ça choque la personne qui dessine de dessiner une tête de la taille d'une fenêtre. C'est paradoxe qu'il faut arriver à surmonter.
Alors, vous avez cité Dürer qui avait des problèmes de perspective. Est-ce que les peintres connus qui sont dans nos musées ont tous étudié la perspective ?
Oui.
C'est obligatoire.
À partir d'une certaine époque.
Même ceux qui déstructurent la réalité.
Déstructurer la réalité, c'est beaucoup plus facile. Mettre dans un profil les deux yeux sur le même plan, ça évite de passer par la perspective.
Oui.
Donc, il y a bien sûr des gens qui, depuis le début du XXe siècle, disons l'invention de la photographie, n'éprouve plus la nécessité de reproduire la réalité. Et je ne suis pas sûr que tous avaient des connaissances en perspective. Parce que mettre des choses à plat et des choses juxtaposer des choses, c'est facile et il n'y a pas besoin d'étudier la perspective. Les surréalistes, comme Magritte, comme Dali, ils connaissaient admirablement bien la perspective. Et ils mettaient des petits décalages dans leur dessin, dans leur peinture, qui faisaient que ça devenait surréaliste. Des proportions, des choses comme ça. Mais individuellement, ils maîtrisaient parfaitement la perspective. Et quand je disais que Dürer ne maîtrisait pas la perspective, il est allé jusqu'à inventer une machine pour les artistes, qu'on appelle en français perspectographe, qui permettait c'était une vitre avec un quadrillage, et le modèle qu'on dessinait, il se mettait derrière la vitre. Dürer a même fait des gravures où il se représente en train de dessiner avec son perspectographe. Et c'était nécessaire. Et l'invention de la perspective, ça s'est passé au XVe siècle à Florence. C'est un sculpteur, orfèvre, etc., oui, peintre, architecte, Brunelleschi, qui a le premier jeté les bases de la perspective. Mmh. Il a épaté les Florentins à l'époque, parce qu'il a fait des expériences avec le baptistère de Florence, qui est une énorme bâtisse octogonale qui se trouve face à la cathédrale. Et il leur a montré à travers une vitre que la perspective existait. Mais les Florentins étaient stupéfaits. Car dans la peinture du Moyen-Âge, dans les icônes, dans tous ces trucs-là, la perspective n'existait pas.
Mmh. Dans les Bruegel, par exemple. Bruegel,
lui...
Il était peut-être contemporain.
Il n'y a pas de perspective, effectivement. Mmh. Les personnages sont aussi grands à l'arrière-plan qu'au premier plan. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. On peut faire de la peinture comme ça, à condition d'accepter des règles différentes. Mmh. Mais ça n'est pas la reproduction de la réalité.
Alors, donc ça fait partie de votre partie didactique de l'enseignement à distance. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? J'ai le sentiment que c'est le plus important. Lorsque vous faites vos cours de dessin, est-ce qu'il y en a d'autres toutefois?
Oui, il y a la perspective et puis il y a ce que j'appelle les valeurs. C'est-à-dire, le dessin, pour faire du dessin, il faut relever plusieurs défis. Parce qu'on n'a pas la couleur. Donc, c'est déjà un gros handicap. On fait en noir et blanc, ou à la sanguine, c'est en ocre rouge. Ou à la plume avec des encres de couleur, mais on n'a pas la couleur. Donc il va falloir, pour donner l'illusion du volume et de la réalité, le retranscrire en donnant des valeurs. Mm. Alors les valeurs, il y a des règles, entre guillemets. Mais j'aime pas trop les règles, parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut en dessin. C'est que les contrastes les plus forts sont ce qui est au premier plan. Plus on s'éloigne du dessinateur, plus les différences s'estompent. Les noirs deviennent moins noirs, les blancs deviennent moins blancs. Ça, on le retrouve en peinture, dans les peintures de portraits, dans la Joconde par exemple, pour ne citer qu'elle, son visage est au premier plan et à l'arrière-plan, il y a un paysage. Ça, c'était le grand truc, entre guillemets, des peintres du XVe siècle. Mmh. C'était de faire des portraits avec un paysage en arrière-plan.
L'école flamande, par exemple, oui. J'ai en tête des portraits de l'école flamande, oui.
Mais si on regarde bien les paysages derrière, il y a des erreurs de perspective. Hein. Oui. Mais on ne regarde pas, c'est le portrait qu'on regarde.
Mmh. On prend un instant musical, on fait une petite pause. Tu m'as manqué, tu m'as manqué,
pas de visa.
À nouveau de retour sur FM+, avec Jean Bessa qui organise des cours en visioconférence. Jean Bessa est professeur à l'école occitane d'aquarelle. Alors nous avons évoqué, Jean Bessa, la question de la perspective et des valeurs qui sont deux parties de votre enseignement didactique. Vous commencez par cela. Nous allons maintenant voir un peu comment est-ce que vous organisez ces cours en visioconférence. Donc, voilà, qu'est-ce que ça apporte comme différence par rapport à du présentiel ? En dessin, ça semble quand même... C'est pas la même chose qu'un cours classique. L'élève doit produire et vous devez voir ce qu'il produit.
Ah oui, c'est exact. Là, c'est le paradoxe auquel je me suis heurté d'abord. Bon, quand j'ai donné des cours en présentiel, ils duraient 2h30. Donc une demi-journée pour les élèves, et puis il fallait le temps de trajet pour venir à la salle. Et en 2h30, évidemment, je pouvais faire un cours didactique, et puis les élèves dessinaient, me montraient leurs dessins, je pouvais les corriger sur le tas, en fait. Là, je ne peux plus. Donc la partie didactique, elle est moins longue, forcément. La partie pratique, elle est moins longue aussi. Donc, les élèves font sur place des dessins qu'ils essayent de me montrer tant bien que mal à la webcam, mais ça sort pas forcément. Puis, ça dépend du trait de l'élève. Si les traits sont hésitants, ils vont être gris, ils vont pas sortir à la webcam. Donc, et puis, c'est jamais plat. Je ne vois pas vraiment les dessins des élèves. Donc, ils les font ensuite. Ils me les envoient par email en pièce jointe. Je les corrige. Je les retourne aux élèves avant le cours suivant. Et ensuite, je collationne tous leurs dessins du cours et je les présente pour que tout le monde voit ce que les autres ont fait. Ça, c'est très important. Parce que on apprend beaucoup en regardant les dessins des autres et les commentaires qui sont faits à ce propos.
Et vous restituez aussi une partie de la réalité, finalement, quand chacun peut regarder sur le chevalet de l'autre.
Exactement.
En cours en présentiel.
Exactement. Alors, les cours sont organisés, j'ai organisé les cours de la façon suivante. Je les ai groupés par modules. Modules de 5 cours qui correspondent aux périodes hors vacances scolaires, en fait. J'ai commencé le 18 novembre, donc on a loupé une première session. Et les sessions de 5 cours d'une heure. Chaque fois intercalées entre les vacances scolaires. Les élèves... Pour que ce soit profitable, il faut que les élèves s'engagent pour 5 cours. Parce que un cours, ça ne leur donnera rien. Voilà.
Donc l'élève s'engage pour 5 cours et en 5 cours, finalement, il a en main tous les éléments pour travailler.
Oui, exactement. Mais les cours suivants, c'est des approfondissements des éléments que j'ai donnés pendant les 5 premiers cours.
Je comprenais en lisant la présentation que vous en faites sur le site d'école occitane d'aquarelle que une fois qu'un groupe a été constitué de 4 personnes, vous acceptez à ce moment-là de recommencer un module.
Oui, oui, oui.
Je trouve ça très, très intéressant.
Le cas ne s'est pas produit jusqu'à présent parce que c'est un démarrage.
Bien sûr.
Donc le minimum d'élèves que je prends par module, c'est 4. Pour que ça vaille la peine de regarder les travaux, d'être ensemble.
Oui. Bon.
Et le maximum, c'est 6. Parce qu'au-delà, ça se diluera et ça sera trop court, une heure de cours par semaine, pour plus de 6 personnes. Il y a une progression, que j'ai prévus sur 6 modules de 5 cours. Ça représente une année de cours, une année scolaire, entre guillemets, de cours. Et il y a une progression depuis le début jusqu'à la fin des 5 cours, des 5 modules. Mais si en cours d'année, il y a des groupes qui se reforment, d'élèves qui, si on arrive à faire des groupes de 4 personnes, je peux reprendre les cours au début, à n'importe quel moment.
C'est ça. Et du coup, ça se, voilà, c'est comme une, comment on peut dire, un chevauchement, une superposition de démarrage. Oui, je trouve ça très souple pour l'organisation des personnes. Alors, il reste pour moi une question aussi de la progression de la personne. Est-ce que, bon, je comprends que c'est neuf pour vous, cette organisation. Est-ce que vous avez déjà un ressenti du travail effectué, de la progression de l'élève? Est-ce qu'il ne va pas se décourager, étant donné qu'il est à distance? Voilà. Est-ce que le fait de ne pas vous voir, vous rencontrer, que vous soyez là en chair et en os devant lui ou elle, est-ce que ça, voilà, comment est-ce que vous percevez ça?
Ah ben, je trouve qu'on a, avec le temps, là, ça fait 2 modules complets que l'on fait, on est à la moitié du 3e module, ben, je trouve qu'on a établi des liens sympathiques. Sympathiques. Parce que, d'abord, je ne me prends pas au sérieux, je prends ce que je fais au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Donc, je pense que ça passe pas trop mal avec les élèves. Et elles ont fait des progrès. Indubitablement, elles ont fait des progrès. Et quand je fais un cours de perspective, je leur annonce. Hein. Aujourd'hui, c'est un cours rébarbatif. Celles qui veulent s'en aller, elles peuvent.
Hein. Bon, bien sûr, elles peuvent faire l'écran noir et elles vont prendre un thé à côté.
Exactement. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. J'espère que ça ne se produira pas. Parce que de toute façon, elles sentent la nécessité de ces choses-là. Et dès le départ, je leur ai montré un historique du dessin, du trait du dessin, en leur présentant des poteries grecques, des dessins du Moyen-Âge, etc. Et puis jusqu'au XXe siècle, où là, tout s'est démembré. Donc là, il n'y a plus grand-chose à apprendre.
Alors, vous dites à la fin de votre petite vidéo qui est présente sur YouTube et sur le site, je le répète, de l'école occitane d'aquarelle, que finalement, ce qui compte, certes, vos cours, mais aussi le travail.
Ah oui, bien sûr.
La pratique.
Ah oui.
Quotidienne.
Plus on dessine, mieux on dessine. Ça, c'est évident. Hein.
Ouais.
C'est comme en cuisine, plus on en fait, mieux on conçoit ses plats. Hein.
On peut être plus ou moins doué au départ. Encore que vous avez l'air d'être sceptique.
Je suis sceptique, oui. Parce que beaucoup d'élèves me disent « j'ai pas le coup de crayon ».
C'est ça, c'est une expression qu'on entend très souvent. Ouais, oui.
Ouais. Mais le coup de crayon, il vient avec la pratique. On ne peut pas être virtuose du jour au lendemain. On ne peut pas jouer du piano du jour au lendemain si on ne fait pas des gammes. Bon. Donc ça, il faut l'intégrer. Mais je dirais que l'œil de la personne est beaucoup plus important que sa virtuosité au départ. Quelqu'un qui voit les choses, qui voit dans l'espace, a un avantage sur l'autre qui ne voit pas dans l'espace. Ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue au lycée, quand le prof de mathématiques en première moderne nous a fait de la géométrie dans l'espace pour la première fois. Et bien, il se trompait, il n'arrêtait pas de se tromper, et je relevais les erreurs qu'il faisait, je lui faisais corriger. Ça le gênait beaucoup parce que je n'étais pas particulièrement doué en maths, mais là, je le contrais à chaque fois, parce que je voyais les choses dans l'espace. Lui, il ne les voyait pas. Il les enseignait, mais il ne les voyait pas.
Et ça, en revanche, ça n'a pas l'air de s'apprendre. C'est une qualité dont on hérite ou...
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est aussi un état d'esprit. Est-ce que on analyse ce qu'on voit en face de soi?
Bien. Ça donne très envie, ces cours, Jean Bessa.
J'espère, oui.
J'aurais une dernière question en lien avec l'aquarelle. Je comprends que vous vous adressez à des personnes qui sont, comment dire, inscrites au cours d'aquarelle, mais est-ce que c'est une nécessité?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et j'aimerais que mes cours de dessin, justement, prennent leur envol avec des gens qui viendraient pour faire du dessin. Parce que c'est passionnant. D'abord, il y a des tas de techniques, Bon, le crayon, c'en est une, mais il y a l'encre, il y a la plume, il y a le lavis. Et je leur ai montré des exemples de ces techniques. Mais si au départ, il vaut mieux se cantonner au crayon.
Oui.
Il y a
déjà beaucoup à faire.
Il y a déjà énormément à faire.
Merci Jean Bessage. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le site de l'École Occitane d'Aquarelle. Vous avez bien détaillé l'organisation des cours que vous proposez à distance avec le logiciel Zoom. C'est très bien expliqué, donc je crois que vraiment... Et vous êtes disponible aussi pour tout renseignement qui vous serait demandé.
Bien sûr.
Merci Jean Bessage. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir Guylaine.
A dog.